Je pense que qu'on a une région qui a besoin de se réinventer et qui a les moyens intellectuels de le faire.
Si le vin avait un pouvoir, ce serait lequel?
Je pense qu'il pourrait rassembler les gens.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui, mais que, comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Ouais, on est... Ça y est, il y a du vent, là. Alors aujourd'hui, nous sommes à Eggisheim. Salut, Denis.
Salut.
Je vois que tu es tout... tu es studieux, là.
Et bah j'attends que tu expliques les raisons de ton retour par là.
Ouais. Alors ouais, en effet, on était donc on avait bien enregistré, c'était très sympa. Et puis patatras, pas enregistré correctement, carte SD qui ne fonctionne plus et voilà. Bah, du coup, c'est ce qu'on appelle les problèmes techniques et la technologie elle a du bon, mais parfois elle a un peu du mauvais. Et puis pour récupérer les fichiers, c'est possible, mais ça revenait trop cher. Ça revenait plus cher à faire réparer la chose que justement de revenir. Et puis c'est toujours sympa de se revoir, parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la Sommerfest.
Oui, quand il y a cette fameuse déguste là. Ouais, ça doit être là-bas. Ouais.
Ouais, ça remonte à un petit peu. Et puis on est en 2022. T'as bien commencé l'année?
Ouais, ben écoute, maintenant on est de retour dans les vignes et puis on fait la taille quoi.
C'est la taille là, c'est bah explique-nous un peu c'est quoi la taille dans les vignes.
Eh bien, en fait, la vigne elle pousse quoi au cours de l'année et puis nous en hiver. Notre boulot, eh bien, c'est de la rabattre dans les portions congrues et de façon respectueuse, quoi. Tout ça pour avoir de la récolte, quoi. Parce qu'une vigne qui est pas taillée, elle donne pas vraiment beaucoup de raisins et pas les bons, quoi. Pas ce qu'on recherche, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que les vrais biodynamistes, ils disent qu'on devrait pas pouvoir en faire, nous, de la biodynamie, parce qu'on taille la vigne, quoi. Donc on contraint le végétal de façon, c'est vrai, assez violente, quoi. Mais bon, ça fait partie du game, quoi. Voilà. Et là, nous, on est 5 à tailler au domaine. Voilà.
Donc avec toi, vous êtes 5.
Ouais. Laura, Christophe, mes parents et moi.
Donc c'est une petite équipe familiale assez sympathique.
Ouais. Bah, il y a Laura qui est là depuis un peu plus d'un an. Christophe, depuis, j'ai toujours connu, quoi. Et mes parents, que j'ai aussi toujours connu, ça va de soi. Et ouais, bah oui. Donc tout le monde est formé à faire toutes les tâches. Et globalement, tout le monde essaye de s'améliorer continuellement. Mais bon, après, voilà, c'est aussi une dynamique qu'on essaie de maintenir, quoi, tu vois. Fait à des formations. Alors il y a Lavla qui a proposé dernièrement un truc sur les goûts de souris, là. Enfin, les goûts de céréales, notre fameux problème quand on fait des vins qui sont un peu plus oxydatifs. Avec des élevages longs et puis on a Vigne Vivante là, cette fameuse asso qui, eh bien, qui regroupe plein de domaines qui sont intéressés par une agronomie un peu plus douce, si on peut dire comme ça. Et voilà, du coup, il y a toujours de quoi faire intellectuellement pour essayer d'avancer quoi. C'est aussi ça qui est intéressant, quoi.
Puis il y a les discussions entre vignerons aussi, hein. Les réseaux sociaux ont peut-être fait de bonnes choses, c'est que vous arrivez à discuter les uns avec les autres. Et puis bon, les Alsaciens, vous vous entendez plutôt bien entre vous, donc vous soutenez assez facilement. De ce que je vois à la Sommerfest, il y a plutôt une bonne entente entre vous.
Ouais, chez les jeunes, ouais. Oui, bah c'est vrai qu'il y a toute une génération qui a compris que c'est mieux d'essayer d'avancer ensemble plutôt que de casser du bois l'un sur l'autre. Et puis ça donne des relations très sympas, quoi. Ça donne de belles soirées, de beaux moments d'échange. Et puis oui, il y a des groupes pro sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Donc ça, si tu veux bouger, c'est vraiment facile de trouver de quoi faire, quoi, de quoi réfléchir.
Parfois, Facebook et les réseaux sociaux ont du bon, ils n'ont pas que du mauvais. Ouais. À bon escient.
Oui, oui, non, mais je... Voilà. Après, tu fais ton... Enfin, tu prends comme
chacun
tu veux ce que t'as, quoi.
Ouais. C'est ça. Bah, justement, comme on est dans les villes, alors avant qu'on parle de ton parcours et de ton domaine, on va en profiter. Alors, comme c'est l'hiver, pour pas que que tu sois frigorifié. Est-ce que tu peux me parler des terroirs de ton domaine, des lieux-dits? Je crois qu'il y a 3 grands crus, me semble-t-il. Deux grands crus. Ok. On va commencer par les lieux-dits, et puis on va commencer du petit vers le plus grand.
Pour les lieux-dits, tu peux la regarder sur le, tu peux les consulter sur la carte que des jeunes vignerons indépendants là, que, enfin voilà, ça, on avait beaucoup travaillé dessus là collectivement. Et donc des lieux-dits, il y en a autant que tu veux, hein. Il y en a 4-5 qui sont au village revendiqués par des vitis, quoi. C'est tout. Globalement, c'est des bases calcaires, quoi, avec de l'argile. Et après, l'exposition est différente, et puis du coup le goût du vin. Mais notamment, on se trouve là, c'est le Haut Rhein, donc ça veut dire la haute colline, ou enfin c'est une idée d'élévation, quoi. Donc ça, c'est un type d'argile qui est assez compact. Du coup, c'est des sols qui sont un peu compliqués à travailler. Puis comme on est en hauteur, tu vois, il y a toujours un peu de vent, les vents thermiques, ou bon là c'est l'hiver, là forcément il y a du vent. Et du coup, ça calcaire aussi, ça fait des vins qui sont plutôt élégants, qu'on peut arriver à maintenir avec une belle vivacité, une belle fraîcheur, un beau potentiel de garde. C'est un peu classique de ce qu'on peut faire sur le village, quoi. C'est-à-dire quand même globalement assez riche, parce que tu vois, ici il fait chaud, quoi. Enfin, en été, pas aujourd'hui. Et du coup, ça fait des vins qui ont quand même de la corpulence, mais de la finesse, quoi. Voilà, après, t'as le... Bah, moi, je revendique je suis le seul, là, le Steyr, là, que moi, je vends francisé sur la colline. C'est juste de l'autre côté, hein, ça descend et ça remonte. Et c'est aussi un autre type d'argile et un autre type de calcaire qui donne des vins froids. C'est le mot, tu vois, froid. Très élégant, mais froid, tu vois, sec et... Pas très acide, mais avec une belle fraîcheur, tu vois. Que, bon, la tension ne vient pas que de l'acidité, quoi, visiblement. Bref. Et puis après, bah, t'as le Altengarten en bas, que Sebmann revendique, et Fred, que tu vas voir tout à l'heure. Moi, j'en ai pas, enfin, les arrachés. Et puis voilà. Après, qu'est-ce que j'oublie? Bah, il y a le Sundel de l'autre côté, là, qui est... Ça veut dire la petite côte rôtie, tu vois. Nous, on est obligé de... Pour que les gens comprennent, on est obligé de faire un peu la translation dans la langue qu'aujourd'hui on utilise, quoi.
De Molière.
L'administration, ouais. Ça n'a pas encore changé, hein.
Après, c'est bien, avec les 400 ans de Molière, c'est bien d'utiliser sa langue. Salut Jean-Baptiste.
Ouais. Écoute, hein, je ne l'ai pas connu, lui.
Moi non plus.
Et voilà, pour les lieux dits, quoi. Et puis, on a deux grands crus, l'Eichberg, le Pfirsichberg. Alors... globalement, l'Eichberg, ça fait des vins qui sont plus masculins, si on peut dire. Alors, il faudrait pas que ça soit genré. Alors, on va essayer de s'extraire de cette posture-là. Je m'excuse. Ça fait des vins qui sont... par contre, bodybuilding, on a le droit de dire. Tu vois, c'est des vins qui ont...
Du caractère.
Non, beaucoup de présence, mais peu de longueur, tu vois. C'est-à-dire comme tous les bodybuilders qui font que le haut et qui laissent tomber les mollets, tu vois. C'est un peu ridicule, mais j'ai remarqué ça dans ma pratique. Et après, le Pfirsichberg, ça, c'est plus élégant, bergamote, assez fin. Enfin, c'est plutôt des terroirs à Gewürz, parce que justement, le Gewürz, il va acquérir une autre dimension qu'on ne lui connaît pas. Et c'est de là que vient l'originalité un peu du cru, quoi, du Pfirsichberg. Et voilà, donc, il y a sur 350 hectares de vignes, il y a un tiers qui est en grand cru. Voilà, il y avait une définition des crus qui, à l'époque, était un peu plus large, quoi. Et c'était d'autres enjeux, quoi. Et maintenant, on revient à des subdivisions de la division, quoi. Enfin, pas tout le monde, hein, mais globalement, les vignerons qui sont engagés, comme ceux que tu plébiscites, qui sont engagés dans des démarches un peu, tu vois, identitaires, dans le sens pas xénophobe, mais tu vois, de recherche de notre culture, quoi, ou
amoureux du terroir.
Ouais, voilà. On peut dire ça comme ça. Et du coup, on essaie d'aller un peu loin, quoi, dans toutes ces réflexions, quoi, tu vois. C'est pour ça que ça sert à rien d'avoir des grosses cuves de 50 hectos, il vaut mieux avoir 10 cuves de 5 hectos, tu vois, pour un peu voir un peu ce que ça donne, tu vois. C'est comme ça que nous on fait, quoi, voilà.
Alors, on est dans les vignes, c'est quoi les trois châteaux là-haut? Si les gens veulent se promener dans les vignes à Iguisheim, il y a trois châteaux en hauteur.
Ah
Mais
bah
quels
oui.
sont-ils?
Bah ça fait partie intégrante de l'identité du village. Ah, t'as vu, il y a Pierre Weber là-bas. Tu le connais lui?
Bah, qui n'aime pas Pierre Weber?
Bah, tu vas aller voir la bagnole verte. Les bagnoles de couleur, c'est les patrons, ils achètent des bagnoles de couleur, comme ça ils peuvent voir de leur bureau où sont les bonhommes. Là, je rigole. Enfin non, c'est vrai. Et du coup, les trois châteaux, eh bien en fait, à Iguisheim, il y avait avant, hein, dans l'an 800 et tout, tu vois, après. Enfin bon, c'était les Carolingiens, ça. Ouais, bon, je suis pas trop au fait de toutes ces affaires-là, mais une famille assez puissante, comme la famille des comtes d'Aiguissem, quoi, qui avait des possessions un peu partout en Alsace et qui sont bien sûr fait dézinguer, quoi, et qui ont fait d'Aiguissem le centre de là. L'immense possession, quoi. Alors bon, un château, il n'a pas été construit du jour au lendemain. Il y avait plusieurs périodes d'occupation, de construction et tout. Mais c'est vraiment notre paysage. Enfin, tu vois, il y a ces trois tours là au-dessus.
C'est quoi le nom des trois tours? C'est les trois châteaux?
Non, alors il y a trois tours. Il y a le Dagsbourg, le Weckmund et le Wallenbourg. Tu vois, ça c'est tous les gens
C'est
d'Iguisheim.
là où tu te balades quand t'es ado.
Ouais, voilà, ouais, bah c'est notre balade.
Tu fais les 400 coups.
Bah oui. Ah, nous on avait rêvé de mettre un jeu de lumière, tu vois, EXA, EXA pour EXA. Tu vois, ou bon, ça on a jamais fait, mais avec des groupes électrogènes, bon, on avait déjà des délires là-bas, quoi. Et voilà, c'est un peu, bah, tu vois, c'est un paysage classique, quoi. Alors, ben, chez nous, le truc, c'est que, tu vois, dans le Bas-Rhin, t'as souvent, c'est des paysages qui sont un peu pas bocagers, mais qui sont un peu plus diversifiés, quoi. Avec des champs, tu vois, des vergers, blabla, des vignes. Alors que chez nous, ben, on est près de Colmar, et du coup, le paysage, il s'est divisé, segmenté assez vite, tu vois. T'as le village qui s'agrandit, les vignes qui restent à peu près sauf dans le bas, et les champs. Et puis voilà, tu vois, il y a plus de d'alternance, quoi. Et du coup, ça, c'est pas très bon pour la. Bah ouais, bah disons pour la faune, la flore, la beauté du paysage, tu vois. Mais bon, ça, c'est un peu la rançon de la gloire, quoi. L'Alsace, c'est un endroit où. Qui, dans lequel apparemment fait bon vivre, alors du coup, il y a des gens qui veulent y vivre, quoi. Voilà, mais je pense souvent à ça quand je vais dans le Bas-Rhin, quoi, qui est encore un peu plus. Et j'espère que ça va durer, qu'ils auront l'intelligence de conserver un peu cette particularité, même si la marche du monde est là, pas dans ce sens trop, mais voilà. Et voilà, donc, bah, tu vois comment c'est, quoi.
Il y a même un rapace qui nous salue, comme toujours, quand on est dans les vignes. Ça, c'est toujours agréable de dire la beauté de la faune et de la flore. C'est quand même une belle chose, non? Tu crois pas?
Ouais. Bah, tu vois, du coup, on essaye de recommencer un peu à inclure dans les chantiers de plantation de vignes ou quoi, bah, de nouveau des talus s'il y en a, les fleurir ou les planter avec des arbres. Tu vois, essayer de refaire des haies, remettre des arbres un peu à gauche à droite, quoi. Ça, c'est vachement important. Nos grands-pères, pères, ils avaient tout.
Tu replantes des arbres, toi?
Oui.
Et est-ce que tu es comme Arnaud Geschicht où tu plantes Alors lui, il nous a expliqué que bah, sur certains, il mettra plus de la pêche, sur d'autres, plus de la cerise. C'est aussi comme ça?
Oui. Bah, tu vois, quand t'as un pied manquant, ma foi, tu peux remettre un pied de vigne ou tu peux mettre un arbre, quoi. Je veux dire, ça n'appartient qu'à toi, la décision, quoi. Et oui, bah après, c'est des choses qui sont longues à mettre en place, hein. Mais oui, j'ai quelques parcelles comme ça que je dédie. Enfin, au fur et à mesure, tu vois, moi, ça prend du temps, hein. Tu sais, tu peux planter 2 fois l'an, enfin, au printemps ou.
Un jour, on verra un cidre ébingé. Je crois que c'est la grosse réflexion que se font de plus en plus de vignerons.
Ah bah, tout ce qui est rosacée, enfin, la famille des rosacées, c'est pommes, coings, pêches, ce genre de fruits, quoi. Ils ont apparemment les mêmes mycorhizes que la vigne, donc ça va bien ensemble, quoi, tu vois. C'est des relations gagnant-gagnant. Alors oui, bah cidre, oui, tu en verras, hein, dans quelques semaines, je pense. Enfin, je suis dans ces réflexions, évidemment. Bah, le truc, c'est que vu que cette année était tellement pourrie, on avait le temps pour essayer de faire autre chose. Et puis on a déjà un verger un peu plus haut, du coup, voilà, quoi. On essaye un peu de se diversifier, puis c'est intéressant, quoi. C'est sympa d'essayer de trouver un peu d'autres trucs, quoi.
C'est clair. Bah écoute, on va continuer. On va aller se mettre au chaud, ça te va?
Ouais, parfait.
Parce que je crois qu'il y en a un qui a froid là-bas. Alors j'ai un nouvel acolyte, c'est un petit padawan, simplement comme Adrien a un peu moins de temps, ce qui est tout à fait normal. De temps en temps, je vais proposer à un pote de venir, et c'est toujours bien. Et comme il est sommelier, que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et le sait, en qui j'ai beaucoup de respect, on s'est rencontrés dans un mauvais endroit, mais finalement, même les mauvais endroits font les bonnes rencontres. Salut Yann.
Salut.
Comment tu vas?
Très bien.
Bon, et explique à nos auditeurs, juste dis un petit mot sur toi, qui es-tu, où tu travailles?
Alors, Yann Janvier, sommelier du restaurant Déjà à Strasbourg, quartier de l'Orangerie. Voilà, restaurant gastronomique avec des influences un peu nordiques, japonaises également. On travaille pas mal sur des fermentations, entre autres, avec une cave assez biodynamique, nature. On essaie de faire des choses bien, tout simplement.
Donc tu fais partie de notre ligue des bons vivants, c'est ça?
C'est ça.
Ou de la confrérie? Bien, tu connaissais Guisheim? Parce que tu viens d'une île lointaine.
Non, je connaissais Colmar.
Ouais.
Et Guisheim.
Donc c'est la première fois que tu es à Guisheim?
C'est ça.
Alors tu sais que Guisheim, c'est un village papal. Il y avait un des premiers papes, je crois que c'est possible.
Pas un des premiers, non. Le premier, c'était Saint-Pierre.
Hein. Dans la lignée.
Avant le pape d'avant le schisme, ouais, 1050.
Ouais, 1050, 4. Ouais. Donc Léon
9.
Il confond toujours avec 11.
Du coup, il y a plein de Léons à Guisheim.
Donc voilà, on était sur une terre sacrée. Donc c'est ce moment de, si tu veux faire qu'on t'exauce un vœu, c'est le moment. Tu le gardes pour toi. Et tu connaissais les vins de Denis?
Ouais, j'en avais goûté quelques-unes à la Sommerfest justement.
Ok.
Ouais, je crois que j'ai goûté la macération.
Ah oui. Ok.
Parfait. Et de toute façon, je te cuisinerai au fur et à mesure. Denis, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à venir reprendre ou travailler avec, pour ou avec tes parents?
Je pense que j'ai un parcours assez classique, quoi. J'ai fait un bac général, et puis après BTS à Roufac, ensuite une partie de licence à Dijon. Bon, ça, c'était en 2010, quoi. Partie de licence qui m'a pas du tout plu, j'ai quitté, quoi. C'était un peu, du coup, c'est commercial et il fallait... Enfin, on te dit que, et on t'apprend que le vin, il doit se vendre, et du coup, il faut faire pour que les gens... pour que le goût du vin soit adapté aux clients, quoi. Parce que moi, dans une idée d'appellation d'origine, ça, c'est un discours que je peux pas entendre, quoi. Et puis, du coup, bon, après que t'es jeune, tu fais un peu... des bêtises, quoi, mais du coup, je suis parti. Je claque la porte, et puis, hasard de la vie, je me suis retrouvé dans le sud, là, avec Maxime Barmès, un copain de Veto, là, que Civiti. Et puis, on a créé un domaine, Promesse de la Terre, La Grâce, dans l'Aude. C'était vachement sympa, ça a duré un an. Et, enfin, c'était très dur, très, très dur. Commencer de rien, on se rend pas compte, mais c'est dur. Et puis après, j'étais là 2 ans, après, je suis allé en Bourgogne, parce que je voulais encore une petite expérience ailleurs. Dans les rouges de terroir. Et puis après, je suis revenu. Donc depuis 2015, je suis là, tu vois, 2015. Okay. C'est assez, somme toute, très récent, quoi.
D'accord.
Enfin, 15, 21. Il paraît qu'il faut 10 ans pour former un vigneron, quoi. Ah,
parce qu'Azamour disait qu'on mettait 10 ans à devenir un artiste, c'est peut-être ça. Donc vous êtes des artistes, vous avez raison.
Je sais pas. Il y a quelques... Non, c'est lié à l'artisanat, quoi. Alors, il y a art dedans, mais... C'est-à-dire que tu prends t'essayes de créer une matière première que tu transformes, quoi. Oui, bah déjà. En ça, c'est déjà quelque chose de qui est particulier, quoi. Ouais.
Sur le domaine a été créé quand?
Moi, je suis
grands-parents, arrière-grands-parents.
C'est arrière-grands-parents, quoi.
Rien.
Paternel. Après, le truc, c'est que tu vois, c'est comme dans tout le village. Nous, on est une famille, on est là depuis la fin de la guerre de 30 ans, tu vois. Donc 1650, un truc du genre, quoi. Quand, en fait, faut imaginer l'Alsace au XVIIe siècle, comme l'Irak à la chute de Saddam, tu vois. Donc, c'était une guerre de religion, quoi. Et du coup, il manquait 9 dixièmes des gens. Ils sont partis, tu vois. Ils sont morts, sont exilés, tu vois. Et après, il a fallu, bien sûr, que des gens reviennent. Et nous, on vient du Tyrol du Sud, quoi. Voilà. Donc, on est tous des immigrés, quoi, tu vois. Et voilà. Mais après, tu vois, il y avait la polyculture depuis ce temps-là, tu vois. La TVA est déclarée, tout ce qui est déclaration, c'est une création très moderne, quoi, tu vois. Le fait de salarier des gens avec des contrats, tu vois, avant, mes grands-parents, ils n'ont pas trop connu ça, tu vois. Enfin, disons, c'est à 3 générations. Avant, il y avait les champs, il y avait le rythme de la nature, et puis voilà, quoi. Et ça se passait comme ça. Et puis mon arrière-grand-père, il a fait de la bouteille un peu, un des premiers au village, mais bon, tout le monde dit ça, je pense. Donc moi, je sais pas, j'y étais pas. Et puis au fur et à mesure, il a fait de plus en plus de bouteilles et de moins en moins de cochons, chèvres et vaches, parce que ben, tout bêtement, c'était la meilleure source de revenus pour sa mif, tu vois.
C'était plus rentable.
Et puis il avait, je sais pas, 7 enfants, je crois, ou 8, dans cette baraque, tu vois. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Après, mon grand-père, mon père, qui s'est marié avec ma mère, c'est pour ça que je suis là. C'est vrai. Et elle, par contre, elle vient d'une famille à Vins, là, donc aussi vigneron. C'était plus simple, tu vois. Et puis, mais il paraît que même aujourd'hui, on se marie toujours dans la catégorie socio-professionnelle. Alors, on verra. Enfin, tu vois, la mixité sociale, ça, c'est un truc qui est plutôt dans les idées que dans la réalité. Mais toujours est-il que maintenant, on a 13 hectares et demi, quoi. Donc, ça, c'est quand même. Ouais, bon, c'est l'histoire de l'agriculture, quoi. De plus en plus gros, quoi.
Il y a du vin sur l'île Maurice?
Ah non, pas du tout. On fait
Parce
pas de vin. C'est un.
il y en a à Tahiti, ça pourrait.
Ah oui, mais c'est des vins qui sont. Enfin. Voilà quoi. Bah
Moi, c'est à goûter quand même.
oui, hein. C'est
Pas
tout.
extraordinaire, mais c'est à
Bah
goûter.
tout existe. Tout
Et
est
dans une
existe.
soirée, tu ramènes un vin qui a été fait à Tahiti, même s'il n'est pas. Ça fait son effet, quoi.
Ah bah, bien sûr, hein.
Et en verre noir, ça fait son effet aussi,
Ouais.
parce que Grenoble et vin Tahiti,
Ah
on
ouais.
se sent planté, ouais.
Ah, bah tu vois.
C'était plutôt drôle. Juste, ton domaine, on peut dire que t'es dans une mouvance plutôt bio. T'es certain, alors t'as une
Ah bah
certification bio.
non, c'est pas une mouvance, c'est
L'état d'esprit.
ouais, c'est carrément. Enfin, la première certif environnement, c'est mon père, tu vois, c'est dans les années 2000, avec un cahier des charges qui s'appelle Tiflo,
Ouais.
qui existe encore. Je sais pas exactement où il en est, ou soit il existe un peu, soit il est mort de sa belle mort, c'est-à-dire tous les mecs qui étaient Tiflo, ils sont allés vers la bio. Donc c'est un peu le but d'une asso, hein, d'être tremplin, quoi. Et ouais, donc bah moi, j'ai pas, moi par exemple, j'ai jamais touché je suis parti, enfin, d'une génération, j'ai jamais touché un truc bidon de glyphos de ma life, tu vois. Ça m'intéresse pas, enfin, ça m'intéresse pas, ça serait intéressant, hein, intellectuellement, mais moi, j'ai jamais eu affaire à ces trucs-là, quoi. Après, faut pas non plus, on n'est pas non plus des joyeux de riz, tu vois. C'est-à-dire qu'on faire du vin, ça demande quand même du
Bien
travail, d'être
sûr.
derrière, un peu de rigueur, d'être propre. Ben, du coup, tout ça, ouais, c'est du boulot. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, il y a une espèce d'une idée un peu romantique. Oui, c'est de la nature, machin. Ça se fait tout ce ben non, quoi. C'est même encore, alors beaucoup plus stressant, parce que tu vois, tu travailles sans intrants, donc sans filet, tu vois. Si t'as une cacahuète, ben t'as intérêt à être derrière pour te se rattraper. Et puis il en arrive, tu vois, c'est sûr, hein.
Bien sûr.
Enfin, mais oui, on essaye d'être là-dedans, quoi, parce que en fait, on n'a pas besoin de vin pour vivre, tu vois. Enfin, l'humain et le vin, c'est un produit de la culture, tu vois. Enfin, si tu l'extrais de l'intellectualité que tu mets avec, ça sert plus à rien, quoi. Donc, ben, c'est le sang du Christ. Enfin, tu vois, il y a toute une cause, enfin, il y a toute
Oui,
une un intellect derrière.
bien sûr.
Et du coup, si tu enlèves ça, eh bien, le vin n'est plus un aliment, tu vois. Donc, le vin est inutile, en fait. Du coup, l'idée, c'est de le connecter de plus en plus, toujours plus, à une idée de culture, tu vois. Pour moi, c'est le côté très nature, parce que ça répond à une certaine recherche de naturalité qu'il y a dans la société. Et deuxièmement, c'est très intéressant aussi à faire. Et moi, je bois presque plus que. Enfin, que ça. Dieu sait que je bois beaucoup. Et puis après, tu vois, tu as. Évidemment. Et même le samedi. Et puis après, il y a la recherche de tout ce qui est rapport au terroir, tu vois, à l'histoire. Et je paye ça, pour moi, ça fait un corpus qui est intéressant pour le mec en face, quoi. Tu vois, qui va l'acheter, qui va le goûter. C'est le sommelier qui va l'expliquer. Donc l'idée, c'est d'être le plus près possible du territoire, quoi. Bah, alors nous, on est à 13 hectares et demi et on fait 60 000 bouteilles, quoi. Ça veut
60 000 bouteilles. Okay.
Vous avez l'idée du rendement, quoi. C'est des rendements qui sont pas énormes, mais qui sont quand même aux alentours des 50 hectares. Tu vois, c'est pas non plus les 15 hectares et le pétard et la couronne de fleurs, tu vois. C'est une agriculture, moi je veux des vignes qui vivent, tu vois, qui soient vigoureuses quand même, tu vois. Alors, sans trop de... Enfin, on n'utilise pas d'engrais, tu vois, mais on a des semis, des légumineuses, ouais, et tout ça, tu vois. On fait vraiment pour que le sol y vive et pour qu'il y ait une fertilité, quoi. Et l'idée, c'est que la récolte, ça soit le surplus d'un système qui fonctionne en vase clos, tu vois. C'est pas, t'as un sol, tu ramènes des engrais, t'as une récolte, tu vois. Non, c'est pas ça, pas comme ça que ça marche.
T'as un cheval qui se balade dans les... Tu laboures au cheval, le tracteur,
non.
Quad
non. Ah bah, on laboure pas avec le quad, mais on se sert d'un quad, oui, parce que c'est plus léger, quoi. Voilà. Puis c'est plus confortable aussi pour le mec qui est dessus, quoi, des heures et des heures pour traiter. Ouais, puis c'est moins cher aussi. Tu vois, ça fait partie
Je crois qu'ils vont faire une course de quad à la prochaine. Je pense que à la prochaine Summerfest, je vais faire un tournoi de course de quad.
En plus, on a presque tous le même parce que il y a que le Yamaha 450 qui passe dans les vignes, quoi. Étroite, tu vois.
Entre Florian, lui, je sais plus qui il y en a encore.
Arnaud,
Lucie, ouais. Oh, ça
bouge. Julien Albertus, il y en a plein,
Drève ou 4
Ouais, non, moi je.
Ça pourrait être drôle.
Ouais.
Mais c'est vrai que le cheval, c'est quelque chose que, comme Arnaud, que, on en parlait à l'instant d'Arnaud, c'est quelque chose qui pourrait te séduire, ou les moutons, je sais pas.
Ouais, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà pu faire, quoi.
Okay.
Alors aujourd'hui, moi, tu vois, j'essaie de labourer le moins possible. Et c'est vrai qu'en termes de cheval, je ne fais pas parce que déjà, comme on fait appel à un prestataire, c'est extrêmement cher. Okay. C'est genre 80 € de l'heure aujourd'hui, tu vois. Donc ça, économiquement, c'est quand même compliqué à rentabiliser. Et puis... toujours parce que c'est fait par un prestataire. Le prestataire, il a plein de clients et puis la fenêtre de tir pour aller labourer, elle n'est pas extensible. Du coup, on s'est déjà retrouvé avec des... Enfin, c'était trop compliqué, quoi. Après, oui, ce qu'il faudrait, c'est en acheter, hein, quoi. Par contre, pour ça, il faut l'écurie, le champ et le bonhomme.
Ouais, parce que ça demande de l'entretien et beaucoup d'amour.
Ouais, moi, je suis pas... Je suis pas dans la... Mon entreprise n'est pas assez sereine. Enfin, je suis pas assez serein pour me lancer dans l'élevage, quoi.
Et il y a eu une petite actu qui a eu lieu dans la région il y a un mois et demi. C'est la sortie de l'appellation de Jérôme, donc
ouais.
La grange de l'oncle Charles.
Ouais.
Moi, je voulais... alors, t'es pas obligé, hein, mais c'est vrai que on en a parlé avec dans l'épisode d'Arnaud qui sort la semaine prochaine.
Ouais.
J'ai dit tiens, pourquoi pas. Quel est ton sentiment là-dessus?
Moi je pense que, écoute, c'est un peu politique, tu vois, mais le par quel biais aborder ce débat, tu vois. Le truc, c'est qu'aujourd'hui l'appellation, c'est un cadre, mais c'est pas celui qui court le plus vite le 100 mètres, tu vois. Sous-entendu, le plus performant, c'est celui qui rentre dans le cadre, tu vois. Bon. Et du coup, ceux qui considèrent que il peut exister d'autres choses, tu vois, ils sont un peu... globalement, c'est plus compliqué pour eux d'exister dans le cadre congru de l'appellation, quoi. Parce que, t'as tout un cahier des charges, quoi. Vous le connaissez, il est disponible, c'est public, quoi. Enfin, nombre de pieds de vignes à l'hectare, déguste d'agrément, etc., etc., écartement entre les fils, tout est noté, noir sur blanc, quoi. Hors de ça, pas de salut, mais c'est vrai que, en fait, tu peux vite te sentir contraint, quoi. Voilà. tu vois, les cépages, bon, c'est très bien, tu vois, mais si tu veux planter autre chose, ben, ben, ça serait parfois peut-être intéressant. Par exemple, ouais, la réflexion sur les cépages, elle est intéressante. Tu vois, maintenant, on dit sur le réchauffement climatique, pourquoi on ne chercherait pas des cépages, tu vois, qui gardent plus d'acidité, qui mûrissent plus longuement, ou tu vois,
Sur ce qu'est?
Ben, tu sais, dans l'histoire de l'Alsace, il y en a plein, quoi. Tu vois, bon, moi, par exemple, il y en a, bon, il est précoce, donc c'est pas forcément le bon exemple, mais je vais pas le planter. Il était endémique à l'Alsace, c'est le Saint-Laurent, tu vois. Maintenant, il y a encore quelques hectares, bon, en Allemagne, régulièrement, t'en trouves, et puis en Autriche, quoi. Mais il est né en Alsace, tu vois, c'est Oberlin qui l'a sélectionné. Et du coup, ben, moi, par exemple, je vais le rien planter en Lande-France. Et le truc, c'est que du coup, quand tu as des démarches qui essayent d'être, tu vois, le moins de rendement, le plus de pieds à l'hectare, des cépages un petit peu. Tu vois, on ne te dit pas d'aller planter du Nebbiolo ou de la Syrah, mais essayer de rechercher un peu des sélections massales de je sais pas quoi, de trucs. Bon, bah, ça fait des vins qui sont plus dans le type, tu vois. Et le type, en fait, c'est le type de vin d'Alsace, c'est Riesling, Clone 74, sur SO4 dans la plaine à 80 hecto-hectares, quoi. Bon, maintenant, c'est 65, mais voilà. Mais sauf que 80 dans la cuve, c'est 100 sur la vigne, tu vois. Et du coup, bah, tu as un type de Riesling qui est vendu à je sais pas quel prix. Et ça, c'est le vin d'Alsace, tu vois. Bon, bah, hors de ça, et moi non plus, je fais pas ça, eh bien, tu as du mal à exister, quoi. Donc, moi, en fait, alors Jérôme, il a peut-être fait c'est un peu le mouton noir, parce qu'il a dit tout haut à tout le monde, et il s'en est pris plein la gueule, et il va continuer à s'en prendre plein la gueule. Il a dit, ben moi je m'en vais, je me reconnais pas là-dedans, je m'en vais quoi. Mais alors, ben moi, si tu veux, je suis très honnête, une bouteille aujourd'hui, tu vois, les macérations, je suis pas obligé de les mettre en vin de France, je suis pas obligé de les mettre en Alsace, pardon, parce que c'est une modalité qui n'existe pas dans le cahier des charges quoi. Il y a marqué vin d'Alsace, je suis border, tu vois. Et si demain, ben je me dis, écoute, toutes les bouteilles qui sont un peu border, je les sors, ben j'ai une bouteille sur deux qui est en vin de France, tu vois. Donc je suis techniquement la moitié d'un vrai Alsacien, tu vois. Alors que ça fait 400 ans que je suis au bled, tu vois. Bon. Et oui, alors oui, moi, en fait, je le comprends, tu vois. Et on est plein à se poser la question.
Donc, l'une des solutions, ce serait, et c'est ce que me disait Henri Kess, par exemple à Molsheim, c'est ben, les jeunes, ok, mais ils seront jamais là, dans les réunions, dans les
Ah non,
instances,
c'est trop
il
long.
n'y a personne.
En fait, la structure de
Alors,
l'appellation.
on est clairement sur un débat qui est politique, mais on le sait bien depuis 2 ans que ben, la politique, elle gère notre vie, quoi, hein, au
Ah bah
final.
bien sûr, hein.
Et et que c'est important et que
Ouais.
est-ce
Ouais,
que
mais en fait, regarde, je t'interromps, mais on a une structure dans les appellations françaises qui est très pyramidale, tu vois. C'est-à-dire que avant d'être bah, par exemple, moi je suis représentant ODG, je suis au syndicat viticole de mon village, donc et je suis représentant ODG, je suis représentant du syndicat vers l'ODG là-bas, organisme défensé de gestion, quoi. Donc là, j'ai la légitimité pour ouvrir ma gueule, tu vois. Parce que ben je suis au syndicat, au comité, machin. Ok. Après, bon, bah, si je veux, je peux monter, je peux être élu au conseil d'administration si je veux, mais le problème, c'est que bah, les places, elles sont occupées et que moi, ben, je suis pas JA, FNSEA, machin, je suis plutôt un peu à gauche, tu vois, si on peut dire comme ça. Du coup, tu vois, au bout d'un moment, tu t'engages plus là-dedans parce que c'est trop loin de ce que toi, t'es vraiment, tu
Ouais,
vois.
c'est
Puis
ça.
s'il faut se taper 70 heures de réunion avant qu'on te laisse parler 3 minutes, ben, on a tous des boîtes à faire tourner, ça fonctionne plus, tu vois.
Non, je peux comprendre.
Et du coup, ben, c'est là où entre le en jeu un peu le il y a des initiatives comme le Cercle Gustave Burger, là, je suis aussi dedans et c'est intellectuellement très intéressant. Mais c'est l'idée, c'est de déconstruire un peu ce qui existe pour donner plus de fluidité, pardon, au système. Mais ça, en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est difficile de continuer à y croire, tu vois. Notamment, il y a les villages, tu sais, là, donc en Alsace, on a une appellation qui est aussi pyramidale, tu vois, pyramidale en France. C'est t'as les grands crus qui représentent que dalle. En vrai, enfin, tout est déclassé, je sais même pas, c'est peut-être 4% du volume, tu vois, bon, je sais pas. Ce qui, enfin, tu t'attendrais à ce qu'il y ait un sort un peu plus cher, bref. Et ensuite, t'as les appellations, enfin, par cépage, tu vois, donc ça, c'est la grosse masse, c'est l'Alsace, Pinot, machin. Et entre les deux, bah, t'as rien. tu as 11, ce qu'on appelle des sous-régionales, qui ont un cahier des charges, tu vois. Donc, Rouge d'Otrotte, Chervillers, Guévure, ouais, voilà, Guévure de Bergheim, etc. Mm-hmm. Bon, ok. Et le truc, c'est qu'il y a, des, il y a plein d'usages en village, tu vois. Par exemple, Kreidenweiss, il fait un Riesling Andlau depuis 30 ans.
Et il n'a plus le droit.
Et il n'a plus le droit, parce que, ben, en fait... comme il existe des cahiers des charges, et bien tous les autres sont exclus parce qu'ils n'ont pas de cahiers des charges. Et c'est là où le système se mord la queue, parce que l'appellation d'origine en France, c'est des usages loyaux locaux constants. Mais le problème, c'est que comme tu n'as pas le droit de créer d'antériorité, et bien tu n'atteindras jamais la strate, enfin, tu n'atteindras jamais la création de ton cahier des charges en village, tu vois. Et du coup, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui peut évoluer. Et en fait, le truc, c'est que ben, ce que tu vois maintenant, c'est que les mecs, les jeunes, comme moi par exemple, ou encore d'autres, eh bien, notre énergie, on la met à faire des vins qui ne sont pas rouges et qui ne sont pas blancs, parce qu'ils sont oranges, des créments qui ne sont pas des créments, parce qu'ils sont faits avec le sucre, ça s'appelle des pétnates. Et du coup, tu as plein de volume et plein d'énergie qui part, qui va ailleurs, elle est sûrement tout aussi bien, tu vois, là où elle est, parce qu'elle nous fait vivre. Mais si tu restes dans... Si moi, mon concurrent de mon Riesling à 30 hectohectares, ou 40 ou 50, eh bien, c'est le truc du négoce qui en fait 8 millions de bouteilles à 3 euros, je suis mort. Tu vois, je ne peux pas exister comme ça. Et l'appellation, elle devrait... L'idée de l'appellation, c'est de garantir un revenu un peu meilleur parce qu'on fait des choses qui se réfèrent à autre chose. En fait, le cahier des charges, il a inscrit dans le marbre des usages des années 80. Tout maintenant, on est en 2022. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je comprends, Jérôme, je comprends, quoi. Je comprends, hein. Bah, tu vois, je comprends. Et je pense qu'il y en aura...
Non, mais oui, je pense... Bah, en fait, moi, c'est... je trouve... Alors, moi, j'ai appelé la DGCCRF.
Dreads, maintenant.
Justement, par rapport à l'histoire du nom sur les étiquettes. Donc, la réponse qu'on m'a donnée, c'est oui, mais il faut que le consommateur ait une lisibilité. J'ai dit, d'accord. Donc, en fait, vous, ce qui vous dérange dans l'histoire, c'est que vous n'êtes pas certifié, que vous n'avez pas de certitude que le raisin vient dans de l'eau. Elle me dit si. Elle m'a dit oui, c'est exactement ça. Dans ce cas-là, mettez le GPS comme le fait... il s'appelle Confeyer, etc. Bah, des parcelles, bah, comme ça, les gens, ils ont la vie.
Oui. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est vrai que moi, si je n'ai pas de cahier des charges, mon Gewürz et Gizem, il peut venir de n'importe où, quoi. Par exemple. Mais
oui, mais bon, après, en fonction...
Après, on a des déclarations de récolte. Hein,
c'est ça.
C'est lié à... Enfin bon, tu déclares une surface, oui, après, oui, tu déclares pas...
Mais peut-être que...
Mais c'est juste. La réponse, elle est juste.
Mais c'est pour ça, après. Moi, ça, c'est vrai que sur le coup, j'ai trouvé ça, mais j'ai discuté avec elle, et même, elle est d'accord avec moi, elle me fait oui, mais... En fait, nous, la bureaucratie, on n'est pas moderne, on n'est pas encore en 2021. Hein. Parce que quand elle m'a parlé de GPS, elle m'a regardé et me fait « Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça !» Que forcément, les GPS ne mentent pas, puisque tu peux pas... Enfin, si, tu peux les trafiquer.
Oui,
après, non, là mais... encore, tu peux aller sur la...
Non, mais oui, je me reprends. C'est l'État français, il y a une base de droit.
La bureaucratie.
Mais en fait, les arguments... qui nous sont opposés, ils sont tout à fait justifiés. Et ils sont valables. Et voilà, producteurs doivent faire. Non. L'administration, son but, c'est de contrôler ce qui est dans le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est une émanation de la volonté de la production. Non. Donc, en effet, le truc qu'il faudrait, c'est s'engager... Ouais.
Allez, sur ces belles paroles, place au meilleur moment, place à la dégustation. Alors, tu nous as déjà servi un verre.
Hein, ouais, c'est un rouge de 2021 là, que j'ai sorti de la cuve.
Donc, on commence par un petit bébé, un grand bébé vin.
Ouais. Ouais, il est un peu stinky. Enfin,
j'ai vu que tu avais déjà mis le nez dedans, alors.
Ouais, je disais, pour un bébé, il est déjà pas mal. Et la petite volatile qu'il avait.
Ouais, c'est un peu d'acétate, c'est pas la volatile, ça. C'est le nez un peu pointu, c'est pas toujours de la volatile.
T'avais senti une petite volatile, toi, qui a disparu avec...
Ouais, on s'est ouvert, mais franchement, ce petit nez un peu cerise griotte, là, c'est vraiment...
Ouais, moi, c'est ce qui me plaît, on est vraiment sur un fruit bonbon.
Ouais, j'aime bien. Enfin, j'essaye de travailler dans ce sens, quoi. Après, tu vois, il est un peu réduit, pas encore en place, il est trouble. Moi, c'est, tu vois, dans le verre, et ça fait une demi-heure qu'il est hors du tonneau. Ça, pour moi, ça se décante, ça se met en bouteille, et ça, au printemps, ça sera vraiment très,
ça,
très bien.
Très bon. Ça, c'est vraiment en vin de début de printemps.
Ouais, ouais.
Premier barbecue, c'est bien, ça réveille les papilles.
J'aime bien faire un rouge comme ça.
Ouais, c'est bien.
Comme dirait l'autre.
Est-ce qu'il sera soutiré, du coup?
Ah oui, oui. Bah, là, le truc, c'est qu'il faut qu'il se dépose, tu vois, un peu. Et après, je le soutire dans une autre cuve. Là, j'attends. Peut-être que je soutire même deux fois, tu vois. En fait, quand tu mets en bouteille, si les vins sont trop troubles, ils vont partir en réduction, comme ça m'est déjà arrivé plein de fois.
Okay.
Donc, ça prend un mois de plus. Mais bon, un soutirage, tu vois.
Parce que cette mise en bouche est parfaite.
Effectivement.
On continue avec quoi, mon cher Denis?
Je voulais faire une diff là, mais tiens, on va faire celui-là. C'est Riesling Hengst 18.
Allez. C'est Riesling, un des grands cépages alsaciens.
Ouais, bon. C'est le grand cru qui est intéressant, quoi.
Le grand cru Hengst, Hengst qui veut dire étalon, je crois.
Étalon,
quoi. Étalon, c'est le grand cru qui galope beaucoup. Il ne fourmille pas comme le Kefarkop. Mais je crois que le Hengst, c'est l'un des grands crus qui a été retenu pour le Pinot Noir. Grand cru.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Bah moi, je... Ouais, ça me gave. Le truc, c'est que maintenant, on fait du Pinot Noir, tu vois, des premiers, là, Barmès, là, François. Mm. Bon, avec d'autres, hein, mais... Eh bien, ça fait des années que... Je crois que la première demande, c'est 2003, tu vois. Bon, au même avant, parce que... Ouais, bref. Mais du coup, maintenant, on nous donne une modalité grand cru, tu vois. Alors que, de l'autre côté, on te bazarde... Enfin, tout ce qui est vraiment la relation terroir, comme les villages, tu vois, qui est un peu le cheval de bataille aussi dans le groupe jeune, quoi, on a essayé de se battre pour ça. Bon, ben, ça fonctionne pas, tu vois. Donc, l'INAO, là, elle t'autorise, après 20 ans de dur labeur, de faire du rouge grand cru, quoi. Truc de fou. Mais de l'autre côté, ça marche toujours pas, les villages, quoi. Et le truc, c'est que, pour moi, c'est... j'arrive pas à comprendre la logique du bordel, tu vois. Du coup, moi, je l'appelle... Tu vois, moi, il a un nom de... Un nom un peu particulier, mon rouge Hengst, il s'appelle W comme Winzenheim. Avant, il y avait marqué Winzenheim, mais maintenant, il n'y a plus le droit. Donc, W-S45-164, tu vois. Donc, le section parcelle sur le cadastre, tu vois. Et moi, j'ai envie que ça reste comme ça, tu vois. Parce que j'ai... Pourquoi faire? Après, tu vois, tu as les gros faiseurs qui ont plein de vignes. Ils vont se dire, ah, nous aussi, on va faire un rouge grand cru, tu vois. Donc, demain, ils vont arracher, replanter, surgreffer du rouge... avec des, comment dire, enfin t'as tous les suiveurs qui vont arriver, alors moi je préfère à la rigueur continuer à, enfin je suis un peu fatigué de cette démarche, parce que tout ce qui est collectif à la fin, ça, en Alsace au moins, ça finit par aller vers quelque chose qui est moins noble, tu vois, enfin les mecs qui vont arriver avec le rouge grand cru, bon, un an d'élevage à 12 balles, super quoi. Bref, quoi. Je sais pas, dans 5 ans, c'est sûr que ceux qui... Enfin, maintenant, François Barmès n'est plus là, mais je suis sûr qu'il va se retourner dans sa tombe quand il va voir les Pinot Noir Hengst de la cavalerie. Tu vois, c'est ça qui me fait peur, en fait.
Ah, y a pas... bah, après, c'est les dérives, mais en même temps, on attendait quand même. Et pour moi, c'était un peu une hérésie de ne pas avoir de grands crus, surtout que c'est du Pinot Noir et que dans d'autres
régions. Ouais, mais bon, tu vois. En fait, ça c'est une modalité dans un grand cru, tu vois. Il y a 51 grands crus, 15 000 hectares de vignes. Pour moi, c'est un épiphénomène, tu vois. Le Forbourg, ils se sont fait retoquer, donc il n'y en aura pas. Et le Kirchberg, tu vois, à Bar, que je te flaire là. Ça, ouais, c'est super, tu vois, mais pour moi, c'est prendre par le bout du problème, tu vois. Enfin. J'arrive plus à donner de l'importance à ça, tu vois.
Et du coup, le rouge grand cru, c'est comment, du coup? Un rouge
Eh ben, en
un
fait,
peu d'un style bourguignon ou...
Ouais, moi j'aime pas trop mais dire ça, mais c'est ça. Globalement, c'est ça, ouais. C'est des élevages en fût avec des rendements un peu, enfin, plus faibles et des densités de plantation plus élevées, quoi. Tu vois, en fait, c'est ce que presque tous les vignerons y font assez naturellement, quoi. Sauf que maintenant, ça vient dans un cahier des charges, quoi. Et encore, il n'est pas fou le cahier des charges. Sauf que maintenant, il existe, tu vois. Donc, oui.
Alors, ce petit Riesling, j'ai vu que tu avais les yeux en forme de cœur.
C'est pas mal, ça.
Pas mal. Ça te parle?
Bah, il a un côté. Lui, il est un peu réducteur. Mais j'aime bien, ça donne un peu une espèce de croustillance.
Un côté séducteur, oui, surtout.
Bah ouais, le Hengst, après, ça fait des vins, même si on sait que c'est rond, quoi.
Une petite amertume, mais une tension aussi. Hein, même un beau gras, là, en fin de goût, qui vient caresser...
Hengst, c'est Hengst, quoi comme...
Hengst,
c'est marne calcaire.
Okay.
C'est sol assez profond, quoi.
Mm-hmm.
Alors, tu vois, maintenant, ça, c'est... En 2018, j'avais fait deux vins, tu vois, avec cette parcelle en nature et un peu filtrée, un peu sulfitée, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, je fais ça régulièrement. J'ai la même cuvée, il y en a une qui part sans filtration, sans soufre, et l'autre avec un peu filtré. Mais pédagogiquement, c'est super intéressant, parce que les gens, ils peuvent comprendre, tu vois, l'impact et tout. Alors...
T'as une préférence sur les deux, personnellement?
Ouais, moi, j'aime bien la version nature, mais quand elle est ouverte, depuis quelques jours, quoi.
Ah, quelques jours quand même.
Ouais, bah ça, c'est la bouteille que t'as là, elle est ouverte.
Ouais, plus dessus, tu vois.
Construit l'imaginaire sur le vin nature qui dit que ça sent la pomme, enfin tout ce qui est dans l'oxydation, ça tient pas, ça vieillit pas, enfin non, c'est pas vrai.
C'est
quoi.
Bien fermé, si ça tient. Après, moi, l'oxydation ne te plaît pas.
Mais il n'est pas oxydé, ce vin.
Non, il est très bon. Moi, j'aurais pas dit qu'il était ouvert depuis une semaine. Hein.
Exactement.
Mais ça, c'est un peu la magie du truc, quoi.
Fermez-le bien et ça se passera bien, ne vous inquiétez pas.
Oui, bah après, voilà. Il faut pas que le vin. Moi, j'aime bien mettre les vins en bouteille dans le côté un peu réducteur, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se fermer un peu et après prendre du temps pour s'ouvrir.
Après, ils tiennent un peu plus.
Ouais, c'est ça. La technique. Souvent, les rouges, pour moi, quand j'ouvre une bouteille de rouge, si c'est un peu réduit, c'est plutôt positif pour moi, dans mon esprit.
Ok. Et bah, passe au vin suivant.
Ouais, bah celui-là, je vais... Voilà. Bon, allez, hop, fini. Ça, c'est la version filtrée.
Ah bah alors, c'est ça, c'est très bien. Du coup...
C'est des 18, hein, mais il m'en reste plus beaucoup.
On est sur du Hengst, donc 18 Riesling. Ouais. Alors, donc, le premier était en vin naturel, donc non filtré. Et le second, filtré.
Savoir que tous les vins sont dits naturels, hein.
Oui.
Parce que sont tous le résultat d'une fermentation.
Ils sont tous naturels.
Mais tous, hein, tous.
Oui.
C'est pour ça d'ailleurs que ça existe, les appellations d'origine, parce que dans le passé, on faisait du vin avec plein d'autres choses, mais pas trop de raisins. Du coup, la dénomination vin naturel, elle dit jus de raisin fermenté, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on sait tout ce qu'on peut rajouter comme additif. La dénomination naturelle, elle a un peu glissé... vers quelque chose d'encore moins interventionniste, quoi. Mais bon.
Et du coup, en Alsace, est-ce que les vignerons pensent adopter le cahier des charges 20 méthodes nature?
Ouais, je pense qu'il y en a. Moi, j'en connais pas. Je ne sais, moi, je le ferai pas, quoi.
Mais est-ce que c'est intéressant pour vous?
Peut-être. Mais je ne me suis pas penché dessus. Pour moi, dès que t'as un cahier des charges, t'as la base pour qu'il y ait des excès, tu vois. Parce qu'en fait, les gros, ils peuvent faire du vin naturel avec plein d'autres trucs, sauf du soufre et un filtre, tu vois. Donc, moi, ça me fait un peu peur, parce qu'il y aura encore des abus, tu vois. En fait, j'ai l'impression que plus ça va, enfin, du moins pour moi, qui suis un petit viti, j'ai pas non plus besoin de vendre 3 millions de bouteilles, tu vois. Donc, je connais à peu près les clients. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, la vérité, c'est de connaître les gens, tu vois. Et les gens, en fait, ils font pas confiance à ton label ou à ton truc ou à ton machin. Ils font confiance à toi parce qu'ils te connaissent, ils connaissent ton éthique,
oui.
Tu vois.
Ouais.
Donc pour moi, le salut, il est là, quoi. Surtout rester petit, modeste, un peu caché.
C'est justement comment elle a réagi, la clientèle, quand tu as fait tes premières cuvées, ce qu'on appelle, nous, nature.
Bah en fait, globalement plutôt bien quoi.
Ouais.
Ouais, je. Bah, le premier chez moi c'était un Riesling Sommerberg en 17 quoi. Donc là les gens avaient. Bah, en fait ça reste dans les dans l'esthétique d'un Riesling sec, extrêmement vif parce que c'est du granit. Tu vois, les gens, ils connaissent, tu vois. Le truc, c'est que si j'étais venu avec un truc hyper trouble, très gazeux, eh bien, là, ça aurait été
Oui.
très différent. Alors que j'essaye quand même de m'adapter, tu vois. Les mecs qui goûtent l'un ou l'autre, ils peuvent comprendre que c'est du vin blanc, tu vois, la version nature ou pas la version nature, du vin blanc d'Alsace, de terroir, tu vois. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est pas opposer l'un et l'autre, tu vois. Le fait de dire, je suis nature ou je le suis pas. Bah en fait, tu rentres dans des cases et en fait, quand tu es technicien, tu te rends compte que ces cases, eh ben, c'est un peu mouvant, tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé, j'avais une cuve, j'ai mis du soufre, une cuve, j'en ai pas mis, ben, celle où j'en ai pas mis, il y en avait plus à l'analyse que dans celle où j'en avais mise, tu vois. Donc ça s'arrête là où la réalité, elle commence, tu vois.
C'est un peu la réflexion qu'on s'est fait samedi avec Louis Morère. C'est que est-ce que les gens qui boivent que du nature ne sont pas devenus en fait trop fermés? C'est vrai que moi j'ai goûté les cuvées de son père qui sont des cuvées dites classiques,
Ouais.
mais qui sont bonnes et voilà. Après, c'est pas forcément ce que j'achèterais moi, mais ça reste quand même de très bonnes choses. Toi, t'es que sur du nature ou tu vas.
Alors non, pas du tout. Je suis ouvert à plus ou moins tout.
Plus ou moins.
Après, non, je suis pas contre. Je suis pas voilà.
Bon, tu dis pas non à un vieux télégraphe, c'est ça?
Bah.
Tu as raison.
Non, mais après, moi, c'est plus l'humain qui est derrière, en fait.
Ah,
Je
je crois
veux dire,
aussi.
je suis pas contre, voilà, goûter des cuvées qui a un peu de soufre ou qui a un minimum d'intrants, mais voilà, qui a été nécessaire sur un millésime ou une cuvée. Mais c'est plus l'humain qui est derrière. Je préfère voilà, acheter une cuvée un peu soufrée d'un vigneron qui je connais, qui travaille proprement ou que, voilà, qui a un bon état d'esprit,
Bah moi, ma
qu'elle a
référence,
acheté du Guigal
c'est
ou
ça. Moi, ma référence, c'est un
voilà,
peu les
du
cavistes
bœuf.
strasbourgeois, quoi. Si Benoît rentre, la dernière fois, il m'a fait goûter un pinot noir dans son épisode de Yann R à Geert Wilder. Le type, il n'est pas du tout en biodynamie. Par contre, qu'est-ce que c'était bon, quoi. Évidemment, j'ai contacté. Je ne l'ai pas contacté parce que je fais du vin nature, parce que je fais que du vin
Oui.
nature. C'est à un moment donné, il y a une histoire qui est racontée derrière.
Ouais, après. Moi, je me méfie aussi des discours. Tu vois, le mec, enfin, si t'as pas de, si tu dis oui, moi je travaille comme ça, mais j'ai pas de certif, ça m'intéresse pas. Bah là, la biodynamie, elle a un peu de. Bah, moi, ça me fait un peu peur parce que mine de rien, là, dernièrement, j'ai quand même pu voir, lire, entendre, comme quoi, ben, tu vois, c'est des gens fermés, c'est une secte, ésotérique, enfin, que des mots qui sont assez négatifs en fait parce que le truc derrière le biodynamie pour moi ça ouais, c'est assez noble enfin moi je suis pratiquant quoi donc et convaincu donc je suis pas forcément la bonne personne ou l'objectif enfin je suis pas assez objectif pour en parler mais c'est quelque chose qui est assez proche de la terre qui essaie d'être proche des hommes donc tu vois on dit Steiner était nazi peut-être après raciste, bon, voilà, après, ce gars-là, c'est un philosophe du XXe siècle, allemand, au
Ouais.
début, bon, bah, il y avait, l'antisémitisme, il était partout, quoi, alors Dreyfus, c'était un peu avant, mais après, je pense que, tu vois, au fur et à mesure, on va dans des sociétés où on est de moins en moins proche de l'agriculture, plus ou moins de la nature, et du coup, ça fait qu'il y a plein d'incompétences en fait et puis tu vois enfin plein d'approximations et ça je trouve c'est pas super bon quoi alors bien sûr le côté ésotérique tu peux le prendre ou pas mais après tu te plonges dans un bouquin et t'essayes de comprendre ce que c'est que la tripartition et les éléments et le rapport avec Goethe et les plantes par exemple et puis tu comprends bien que c'est un tout cohérent tu
Bien
vois
sûr.
Et que c'est pas un, je sais pas, c'est pas de la fumisterie, quoi. La preuve, tu vois, bon, alors en Europe, en vitis, on est quand même assez devant, quoi, la France, avec la vit avec le nombre de vignerons qui sont en biodynamie, mais juste parce que les vins sont meilleurs, ils se tiennent mieux, quoi, c'est tout. Alors, par A plus B, est-ce qu'on peut dire, pas forcément, pourquoi, mais ça fonctionne, et regarde, ça fait 20 ans, quoi, qu'on fait ça. On n'est pas mort, on est loin pas, hein.
Bon, place 13e, parce que j'ai mieux de petits vins en branche.
Ouais.
En plus, c'est bon, ça.
Mais tu vois, ça, c'est maintenant.
Il y a un nom que j'aime beaucoup.
Je mangerais bien un saumon fumé avec. Ce serait cool, ça.
Par exemple.
Est-ce que Denis est un rêveur?
Non.
Non. Et tout, parce que tu fais des nuages.
Oui, bah après, non, oui. Après, j'ai, comme tout le monde, hein, j'ai un peu mes rêves. Hein. Mais non, un rêveur, je suis pas. Ça, c'est... moi j'adore ça, les vins oranges, quoi. Quand j'ai découvert ça, punaise, je crois que ça a révolutionné ma vie, quoi.
Ouais, ça change totalement la relation et avec le plat et avec le vin et avec les papilles et c'est vrai qu'ils sont de mieux en mieux, ils sont de plus en plus gourmands. Ouais. Toi, déjà le tien, moi je sais que
au nez ça sent la summer crust. J'en ai bu tellement des vins oranges, je pense que
ouais.
Genre, je sais pas pour quand, en fait.
Mais tu l'as associé. Bien sûr. Bon, tu des nuages, c'est la cuvée. C'est vraiment, tu vois, c'est un peu fait pour... il faut que ce soit gourmand.
Et c'est ça.
Tu vois, c'est un peu acide, c'est pas trop tannique.
Non, mais une belle salivation.
Ça, pour moi, c'est un vin orange que tout le monde peut accepter de boire, tu vois.
Ouais.
Enfin, c'est pas du Gewürz à 15 degrés avec encore plein de tanins. J'essaye de pas trop faire, tu vois. Ouais. J'assume le fait de faire des macérations courtes et des élevages, hein. Enfin courts, je sais pas ce qui est court ou long, mais ça c'est 15 jours en vendange entière, c'est plutôt long, en fait. Mais après c'est... Bon après je sais pas, mais je le laisse bien longtemps, un peu plus longtemps que la... Enfin, plus longtemps que la fermentation, quoi. Et après par contre c'est mis en bouteille en mai, quoi, tu vois, donc c'est assez tôt. Mais du coup c'est pour garder du fruit.
D'accord.
Et voilà, donc mine de rien j'en fais globalement de plus en plus, quoi, en fait... je pense que ça va bientôt être 10% de ma prod sur deux cuvées, quoi.
Ouais, en plus c'est très bon.
Il y a deux ans.
On a une belle salivation, je sais pas ce que t'en penses, mais la salivation est là. Ça, c'est purement le truc, tu rentres du boulot le soir, tu te poses, tu ouvres cette bouteille. Regarde-toi un bon film, une bonne série, tu vas passer un bon moment, quoi. C'est...
Et puis comme tu pars de rien, c'est-à-dire c'est pas écrit par ton père ou ton grand-père, tu vois. Tu peux un peu faire ce que tu veux, quoi. Assemblage que tu veux.
Ça peut taper à ta toi, quoi, c'est ça.
C'est ça. Du coup, je trouve que c'est chouette. Tu vois, là, je bossais avec Jordan, là, avec Keane pour les étiquettes, là, de Mulhouse. Enfin, voilà, ça ouvre plein d'autres portes, tu vois.
Je crois que tu avais aussi fait un patate en collaboration.
Avec... Mais avec... pas avec Keane, okay. C'était avec Lucas Pfeiffer.
Lucas Pfeiffer, ouais.
De Colmore. Et puis là, j'ai une œuvre de Kazi, c'est un artiste nantais.
Ouais.
Et voilà, enfin, je m'éclate un peu là-dessus, quoi, tu vois. Enfin, j'ai pas le temps, moi, d'aller jogging ou je sais pas où, tu vois. Donc, il faut que je trouve. Faut que je m'éclate dans mon taf, parce que si tu m'éclates pas dans le taf, je m'éclate nulle part. Tu vois.
Ouais. Et donc, tu t'éclates. Ouais.
Ouais,
c'est... Tu disais tout à l'heure que t'avais une équipe qui était bien présente. Justement, quelqu'un qui te connaît pas et je te connais pas et tu veux faire découvrir ton domaine, c'est quoi les trois cuvées que tu dirais aller prends faire revoir
Il y a celle-là là au-dessus des nuages.
Ouais.
Il y a le crémant c'est toujours important chez nous, quoi, en termes tu vois un peu plus classique avec 3 ans de latte chez nous et puis du Gewürz parce qu'on a XM, alors on fait beaucoup de Gewürz Rabiner.
Ça me va. Ok, bon, on va ouvrir ça. on parlait tout à l'heure de la Vla et on a tous un peu conscience de cette énergie qui se passe dans la Vla. Où...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Même dans la région, est-ce qu'on peut, parce que de temps en temps j'aime bien être un peu chauvin et être fier de ce qu'on est en Alsace, est-ce qu'on peut parler d'une Alsace touch, d'une touche alsacienne?
Chacun la définit comme il l'entend, hein, mais moi, ouais, je serais assez heureux si ça peut y exister. Ouais.
Parce qu'il n'y a qu'en Alsace qu'on a un événement qui s'appelle la Sommerfest, 200 vignerons, soit une trentaine de vignerons, 200 quilles à déguster, où les gens présentent les quilles des autres, alors parfois avec un peu manque d'informations, mais c'est ça qui fait le jeu, ça n'existe nulle part ailleurs, on est d'accord.
Non, ça c'est vrai. Je pense que... qu'on est une région qui a besoin de se réinventer et qui a les moyens intellectuels de le faire et qui est en train de le faire.
Et je vois un peu tes étiquettes et ta passion pour l'art, etc. Est-ce qu'on peut parler de terroir? Est-ce qu'il y a une relation entre la créativité et le terroir? Est-ce que le fait de faire des vins de terroir te donne l'envie de créer?
Il y a un mot entre original et origine. En fait, c'est le même mot. Et les gens... je ne sais pas si, ce qu'il y a comme raccourci dans la sémantique, tu vois, mais quelque chose d'original, on dit de quelque chose d'original, quelque chose qui n'est pas reproductible, tu vois. Alors que quelque chose... L'origine, c'est quelque chose qui est ancré, tu vois, qui est... Du coup, là, il est le parallèle, tu vois, c'est que ça peut être ancré et ne ressembler à rien d'autre et à demander des savoir-faire très particuliers pour que ça soit quelque chose d'unique qui ressemble à rien d'autre, tu vois. Et je pense que là, est un peu, pour moi, c'est ce que tu définis, c'est par ce mot, tu vois, je peux te le justifier, tu vois.
Si le vin avait un pouvoir, ce serait lequel ?
Moi, je pense qu'il pourrait rassembler les gens, tu vois.
Mmh. Complètement d'accord.
Qu'est-ce que tu voudrais que tes clients, ceux qui goûtent tes vins, pensent de toi ?
Ça, c'est pas mon problème. J'ai pas de message dans la bouteille. Pas par rapport à moi. Enfin, ça, c'est une question qui est centrée sur l'ego. Je sais pas.
Ok.
Je peux pas répondre.
Ok. Avant la mauve, tu bois quoi?
C'est une bonne question. Rien, sinon j'arrive pas.
Après la mauve, tu bois quoi?
Du Gewürz. Ouais. Non, du Petnat.
Petnat?
Ouais, il y a du Gewürz dedans.
Pour des altérés?
Ouais.
On doit manger dans un endroit, tu m'invites où?
À Aiguissem, chez le voisin, là, l'auberge alsacienne, c'est sympa. Okay. Sinon, au bon coin, à Vinzenheim.
Okay.
C'est un peu plus pour tous les jours. Dans notre coin, il y a de quoi faire.
Si tu étais un vigneron.
Un autre ?
En France, tu serais qui ?
Si
tu devais à la baguette magique.
Écoute, moi en France, je sais pas trop, je connais pas trop de monde. Moi, j'ai été un peu touché par l'histoire d'un gars qui s'appelle... le domaine existe encore, mais c'est en Italie. Il s'appelle Bartolo Mascarello. Il fait partie des traditionalistes à Barolo, quoi. C'est-à-dire que dans les années 2000, il y avait ce qu'ils sont eux-mêmes appelés les Barolo Boys, c'est-à-dire des modernistes, barrique, bois neuf, des vins plus souples, etc., etc. Et à côté, tu avais des mecs qui sont nés dans les années 40, quoi, qui se sont eux-mêmes donné pour mission de défendre ce qu'ils considéraient être la typicité du lieu, quoi. Et j'ai pas envie d'être lui, tu vois, mais je serais une fois chaud pour dire, j'aurais bien aimé y avoir une discussion. Bah, parce que ça a rapport à l'histoire, ça me plaît, tu vois, le terroir, comment évolue une appellation qui maintenant aujourd'hui est très cotée, tu vois.
Et un vigneron alsacien, tu voudrais être si tu pouvais.
Moi j'aimerais bien une fois faire du chenambon dans ma vie, donc n'importe quel type qui a du chenambon.
Okay, donc tu pourrais être. Je te verrais bien, les cheveux blancs, une petite moussière, une petite barbe. Un caractère un peu trempé. La Daïs.
Ah non, 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 j'ai plus envie de ressembler.
Qu'est-ce que je voulais te dire? Si tu étais un cépage, je suppose que tu serais le Gewürz. J'ai l'impression que tu en parles amoureusement du Gewürz.
Ouais, j'aime bien. Bah, je suis un mec déguisé, quoi.
Ouais. T'aimes bien le Gewürz?
Ouais, bon.
Oh. Et toi, avant l'amour, tu bois quoi?
Petit crément.
Petit crément.
Bien, ouais.
Et après l'amour, spirale. Faut récupérer.
Il faudrait que vous y alliez d'ailleurs.
On l'a fait.
Ah oui, je sais pas.
On l'a fait. J'ai même goûté déjà cette dernière création.
Après Sichuan.
Après Sichuan, c'est très 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 bon. Top. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Bah une bonne récolte, que mon putain de chaos s'achève et puis une récolte quoi. 2022, il faudrait que j'ai un peu de vin à vendre quoi. Oui. Sinon, ça va être compliqué quoi.
Mais sinon, est-ce que t'as un peu d'inspiration? Enfin, des vignerons qui t'inspirent, que ce soit en Alsace ou ailleurs.
Bah, tu sais, moi, je quitte pas trop souvent mes petites frontières, là, donc... c'est un peu... Je sais pas trop répondre à cette question, tu vois. Faire des parallèles avec des gens que je connais pas, tu vois, je sais pas répondre à cette question.
Et est-ce que tu pourrais faire une collab avec un vignon? Comme les brasseurs font des brasseries font des collabs entre eux, est-ce qu'on pourrait imaginer une collab entre eux millions?
Ouais,
c'est une question que je me posais là.
Bah, ça existe, il n'y a pas Riffel, ils ont fait un truc là, un Riesling, je sais plus qui là.
Ça se fait avec Binaire, il fait Pirouette.
Ouais, non, ça c'est un négoce plutôt. Enfin,
ouais,
un négoce.
Sinon, il y a Pépin.
Ouais.
Ouais, ouais, bon. Non, moi je ferais bien du vin ailleurs pour le coup. J'aimerais bien venir faire un autre truc, quoi.
En tout cas, j'espère que cette fois-ci, ma petite carte SD, elle va pas. Il y a pas de raison que. Hein.
Papa, j'ai toujours
pas. Non, parce que c'était important et je crois que voilà, on n'est pas grand-chose. Hein. Moi, je donne la voix et c'est toujours une fierté de donner la voix. Et puis, si on passe 4-6 un peu plus d'heures à monter un épisode, c'est toujours un plaisir. Et puis.
Ouais.
Puis je crois que c'est important dans un monde où on aime bien la transparence de donner la voix des. Bah, parce qu'un vigneron reste un agriculteur, on a peut-être parfois tendance à l'oublier, mais on est des. Et d'ailleurs, ils le revendiquent souvent. Arnaud Guéchic disait souvent : moi, je suis un paysan et je suis fier de l'être. Quoi, donc, En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. C'était ta deuxième.
Ouais. Oui, bien sûr. Je suis toujours content.
Mais en tout cas, moi, ça m'a fait juste l'idée de te voir. Ça me fait plaisir. Donc,
bah, c'est sympa.
Vaut mieux qu'on se voit. Merci, Yann, pour ta première.
Merci.
Je t'enverrai le butin. En tout cas, j'espère que de toute façon, on va annoncer une nouveauté, puisque tous les deux, on a un petit délire. Qu'on va monter dans les prochaines semaines.
Yes.
En ce qui vous concerne, chères auditrices et chers auditeurs, prenez soin de vous, testez-vous, mais pas trop, buvez plus que vous devez vous tester, je pense que ça vous rendra plus heureux. Comme dirait l'autre, buvons modérément, buvons libre et buvons à Alsace. Skilt.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.